Radio Prague, les informations.
Cérémonie du souvenir à Prague pour les victimes du communisme. Les Allemands des Sudètes décernent le prix Charles IV à Peter Uhl. Et puis en foot, le Sparta Prague chute face au Banik Ostrava et perd la première place du championnat. D'anciens prisonniers politiques se sont rassemblés ce samedi pour une cérémonie à la mémoire des victimes du régime communiste. Elle a eu lieu au crématorium du quartier de Motol à Prague et s'est terminée par le dépôt d'une couronne de fleurs dans le cimetière voisin. Les autorités communistes ont toujours refusé de donner les cendres des personnes exécutées à leurs familles et les ont enterrées dans un endroit toujours inconnu. Selon le vice-président de la Confédération des prisonniers politiques, František Šedivý, les recherches laisseraient penser que c'est dans ce cimetière de Motol qu'ont fini les cendres des victimes. Peter Uhl, ancien dissident et journaliste, a reçu le prix Charles IV décerné par l'Association des Allemands des Sudètes. Le porte-parole de cette association, Bernd Posselt, lui a remis le prix à Nuremberg, en Allemagne, à l'occasion d'une cérémonie durant laquelle des familles d'Allemands expulsés de Tchécoslovaquie après-guerre lui ont offert une standing ovation. Dans son discours prononcé en allemand, Peter Uhl a regretté qu'il manque toujours une analyse complète dans les sociétés tchèques et allemandes, une analyse de la violence et des injustices dont a été victime la population allemande dans les années 1945 et 46 en Tchécoslovaquie. Plusieurs centaines de jeunes ont manifesté ce samedi dans le centre de Prague en faveur de la légalisation du cannabis. C'est la 11e manifestation de ce genre dans la capitale tchèque. Elle s'inscrit chaque année dans le cadre de la Global Marijuana March, à laquelle participent 239 villes dans le monde entier. Les manifestants espèrent que le nouveau code pénal tchèque fera la différence entre cannabis et drogue dure pour que la détention ou les plantations de cannabis ne soient plus considérées comme des délits. Je vous le disais en titre, en football, le Sparta Prague s'est incliné samedi 1-2 ou 2-1 à domicile face au Banik Ostrava. Grâce à sa victoire 2-0 face à Mladá Boleslav, le Slavia Prague prend la tête du championnat avec 2 points d'avance avant la dernière journée. Samedi prochain, le Slavia recevra Jablonec et le Sparta se déplacera sur le terrain du Slovan Liberec. Et puis en tennis, après son exploit en quart de finale et sa victoire contre le numéro 1 mondial Roger Federer au tournoi de Rome, le Tchèque Radek Štěpánek a dû abandonner samedi en demi face au Serbe Novak Djokovic. Après avoir perdu le premier set 6-0, Štěpánek a abandonné en raison d'une blessure au début du deuxième set. Dans l'autre demi-finale, l'Américain Andy Roddick a également abandonné pour des raisons de santé. C'est donc le Suisse Stanislas Wawrinka qui sera opposé au Serbe en finale. Et puis, près de 5000 coureurs s'apprêtent à participer dimanche à la 14e édition du Marathon de Prague. Le départ sera donné à 9h et les coureurs traverseront aussi le pont Charles. Le trafic des transports en commun sera fortement perturbé dans le centre de la ville. Les précédentes éditions, rappelons-le, ont été remportées par des athlètes kényans. Et le marathon devrait se courir sous un soleil radieux puisqu'il va faire plus de 20 degrés ce dimanche, jour de fête des Svatava en République tchèque et c'est aussi la fête des mères. Je vous souhaite un excellent week-end ou fin de week-end. C'était le bulletin présenté par Alexis Rosenzweig.
Rencontre littéraire. Václav Richter.
Les Tchèques aiment-ils la France ? La francophilie tchèque est un phénomène évident qui a joué un rôle dans l'histoire tchèque, mais dont les nombreux aspects échappaient à l'attention des historiens. Cette lacune est aujourd'hui comblée grâce à Stéphane Reznikov et à son livre « Francophilie et identité tchèque » paru d'abord aux éditions Honoré Champion et traduit aujourd'hui en tchèque par Alena Lhotová. La traduction est parue aux éditions Carolinum et son auteur est venu à cette occasion pour la présenter aux lecteurs tchèques.
Octobre 1990, je venais d'arriver à Prague et je travaillais à l'Institut français. Et c'était la réouverture de l'Institut après les années noires. Et un nombre incroyable de personnes âgées, de vieux francophiles, de gens qui n'étaient plus allés à l'Institut depuis des années, sont venus pour la réouverture de l'Institut. Et parfois avec une émotion très très grande, les larmes aux yeux. J'étais historien de formation et j'ai trouvé dans les caves de l'Institut des archives de l'Alliance française, ce qui me permettait de créer un lien entre cette francophilie que je voyais vraiment émue, hein, encore une fois les larmes aux yeux, et des archives. C'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire cette thèse au départ, qui a été publiée, qui est maintenant traduite en tchèque.
Votre livre couvre la période entre 1848 et 1914, n'est-ce pas ? Pourquoi cette période ?
Parce qu'il n'y avait historiquement presque rien sur cette période. Les relations franco-tchèques sont plus étudiées à partir de la Première Guerre mondiale. En trouvant ces vieilles archives, j'étais avec Antoine Marès, nouveau docteur honoris causa de l'Université Charles, qui me dit « Oh là, sur le 19e, on ne sait vraiment rien ». Et en trouvant ces archives, j'ai vraiment commencé comme ça, parce qu'historiquement, le sujet n'avait quasiment pas été traité, sinon peut-être par les travaux de Pavla Orska, mais qui ne portait pas sur l'ensemble de la période.
Qu'est-ce que c'était la francophilie tchèque ? Comment elle se manifestait ?
Alors, elle se manifestait presque partout. C'est ça qui est assez amusant. C'est-à-dire que l'homme de la rue se déclarait volontiers francophile. L'homme politique, surtout jeune tchèque, se déclarait volontiers francophile. Tous les artistes se déclaraient francophiles. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il se déclarait ouvertement francophile, de manière presque militante. Et je me souviens d'avoir relu dans les papiers de l'Alliance française quand elle a été fondée à Prague en 1886. Hein, c'est une des premières alliances françaises du monde. Je me souviens avoir lu la question d'un membre qui avait demandé au président Soviéslav Pinkas, hein, qui était peintre, est-ce qu'il est nécessaire de parler français pour être membre de l'Alliance française ? Et Soviéslav Pinkas a répondu non, il suffit simplement d'être un patriote tchèque. Donc cette francophilie, c'est ça la vraie originalité, était un moyen de s'affirmer à la fois comme tchèque et comme occidental. Un moyen de ne pas s'affirmer allemand, un moyen de s'affirmer réellement européen. Et bien souvent, la francophilie, en fait, pourrait être l'autre nom d'une forme d'europanéophilie.
Vous dites que les francophiles ne parlaient pas nécessairement français, mais je crois que quand même la francophilie a beaucoup contribué à l'extension de la francophonie.
Ah, tout à fait. Alors, attendez, c'est Jerzy Karasek Zelwowicz qui explique dans un texte avoir connu un ami avouant ne pas comprendre le français, mais comprendre grâce à la musique de la langue, simplement. Ce qui illustre cette francophilie absolument délirante, idéalisée. Alors, sur la francophonie, le problème, c'est que en Europe centrale, qui est francophone au milieu du 19e siècle ? L'aristocratie. Or, dans le cas tchèque, cette aristocratie n'était pas, à de très rares exceptions près, n'était pas patriote tchèque, elle était souvent d'origine étrangère. Donc, les Tchèques ont une francophonie qui a été acquise notamment dans un système scolaire et un petit peu par hasard, parce que la chance du français était la structure même de l'enseignement en Autriche-Hongrie, qui imposait à partir de 1867 l'existence de deux langues dans le système réel dit moderne. Il était hors de question pour les Allemands que le tchèque soit la deuxième langue obligatoire en Bohême. Donc il était également hors de question pour les Tchèques que l'allemand soit cette deuxième langue. Donc le compromis qui a été trouvé a été le français. Donc voilà pourquoi le français a été obligatoire dans l'enseignement réel, même jusqu'en 1939, hein, ce qui a permis la formation de cercles français dans presque toutes les villes de province.
La francophilie tchèque se manifestait donc dans la politique, moins peut-être dans l'économie, mais surtout dans la culture, n'est-ce pas ?
Surtout au théâtre, en littérature. Krejci disait qu'il n'y avait, même Chalda, je crois, l'a écrit, dans les années 1880, il n'y avait pas un seul écrivain tchèque qui n'avait pas usé ses coudes sur son bureau à lire une grammaire française. Donc ça, c'est un phénomène. La France culturellement était vraiment rayonnante, et ce qu'elle a en grande partie perdu à partir de l'entre-deux-guerres, où elle a été davantage concurrencée par la culture anglaise, américaine, mondiale, a fortiori après 48. Phénomène culturel, phénomène social aussi, puisque la francophonie, le français était la langue du monde, donc c'était un moyen pour la bourgeoisie tchèque de s'embellir socialement, sans oublier quand même un contenu politique. Hein. La France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la Révolution, donc c'était quand même un moyen de protester contre la structure autoritaire de l'Autriche-Hongrie. Hein, le français avait toutes ces dimensions, et sans oublier évidemment la dimension nationale anti-allemande évidente après 1870, puisque la France et la Prusse et l'Allemagne avaient été en guerre en 1870, la France avait perdu. Et là, vraiment, les Tchèques se sont dit vraiment très solidaires des Français.
Est-ce que la francophilie tchèque suscite un écho en France ? Est-ce qu'on peut parler de tchécophilie française ?
Oui, alors, c'est très clair. J'ai trouvé des notes au ministère de la Défense, hein, des notes des services de renseignement adressées au président de la République, au président du Conseil de plus d'autorité, qui expliquait en 1902, les Tchèques sont nos amis. Très clairement, il n'y a aucun doute à ce sujet. Le problème, c'est que la France ne pouvait pas se brouiller avec Vienne dans la mesure où la France essayait de détacher l'Autriche de son alliance avec l'Allemagne. Quand la Première Guerre mondiale a été déclarée, les Tchèques ont obtenu très facilement de ne pas être considérés comme des adversaires de la France, alors que la France était en guerre contre l'Autriche. Les résidents tchèques à Paris, grâce à l'intervention de 2-3 personnalités, ont obtenu tout de suite un statut d'allié de la France. Ce qui est quand même à souligner, hein. Il y avait une tchécophilie française dans les milieux nationalistes, bien sûr, mais également dans des milieux plus culturels, plus à gauche, plus protestants parfois, qui soucieux de rappeler justement le rôle historique des Tchèques, Jan Hus, Comenius, dans la culture européenne. Donc vous aviez une tchécophilie nationaliste en France, mais également une tchécophilie européenne, matinée toujours un peu de nationalisme, ça avant 1914, ne rêvons pas.
Et encore une dernière question, je vous pose cette question parce que vous avez vécu pendant un certain temps ici. Alors, qu'est-ce qui reste de tout cela aujourd'hui ? Est-ce que les Tchèques sont encore francophiles ?
Il reste encore l'image, tous les sondages montrent, quand on demande aux Tchèques quel est leur pays préféré, la France arrive très régulièrement en première position. Je lisais une interview du président Klaus qui expliquait qu'un de ses seuls regrets dans la vie était de ne pas avoir appris le français. Donc il reste encore une image très positive de la France, une sympathie pour la France. Les Tchèques, très peu de Tchèques se disent détester la France. On peut parfois se moquer de la France, ça c'est très courant, mais ça existait déjà au XIXe siècle. Hein. On pouvait parfaitement être francophile tout en considérant que la France était un pays qui déclinait. Hein. Ça n'est pas contradictoire. Mais justement, quelque part, on préfère être l'allié de quelqu'un qui n'est pas trop dangereux. Mais maintenant, les relations se sont normalisées. Maintenant, avant 1914, il y avait très peu de relations économiques. Maintenant, les relations économiques sont devenues courantes, naturelles. Beaucoup de jeunes Français viennent, beaucoup de jeunes Tchèques viennent. Donc maintenant, il y a des échanges, il y a une connaissance bien meilleure. Au XIXe siècle, les Tchèques étaient peut-être beaucoup plus francophiles, mais ne connaissaient pas la France. Maintenant, ils sont peut-être moins francophiles, mais connaissent mieux la France.
C'était Stéphane Reznikov qui a présenté son livre « Francophilie et identité tchèque ». Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Teresa Čistotová, réalisation technique, et à Aleš Krupka, prise de son.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Comme promis, ce sont cette fois les fleurs qui feront l'objet de notre attention. Le sens étymologique de l'appellation tchèque contemporaine du mois de mai,
květen,
nous indiquant en effet qu'il s'agit du mois florissant, du mois des fleurs, comme nous l'avions découvert ou redécouvert pour certains dans notre précédente émission.
Jedna růže, dvě růže, dvě růžičky červené.
Depuis les temps les plus reculés, les peuples les plus anciens, les fleurs
květiny
font partie de la vie de l'homme, lui permettant d'exprimer ses sentiments et de symboliser ses histoires et aventures. Elles sont source infinie d'inspiration pour les peintres en premier lieu et les artistes en général, comme en témoigne cette maxime de Karel Čapek.
Hleď na tyhle květiny.
Regarde un peu ces fleurs.
Ono to je opravdu jako ženské.
Elles ressemblent vraiment aux femmes.
Tak krásné a svěží.
Si belles et si fraîches.
Oči bys na tom nechal.
Tu y laisserais tes yeux.
A nikdy se nedohledíš té krásy.
Et jamais tu n'en percevras toute la beauté.
Něco ti vždycky ujde.
Toujours quelque chose t'échappera.
Bože.
Dieu.
Když ono každá je taková neúkojná.
Elles sont toutes si inassouvissables. L'un des grands écrivains de la littérature tchèque et mondiale a ainsi formulé l'une des définitions les plus justes de ce que sont et représentent les fleurs. Et Karel Čapek avait raison. Nous aimons les fleurs et les femmes parce qu'elles sont belles, fascinantes, pures, sentent bon et nous renvoient à une quête d'harmonie. Elles nous offrent plaisir, joie, bonheur et c'est pourquoi nous les caressons tendrement des yeux et cherchons à humer leur odeur. Et puis les fleurs ont leur propre langage. En tchèque, il s'agit de
květomluva,
composé de la racine du mot
květina,
fleur, et du verbe
mluvit,
parler. Les fleurs parlent et expriment d'ailleurs si bien nos sentiments que lorsque nous offrons des fleurs, nous n'avons presque pas besoin d'ouvrir la bouche. Petr Eben, un compositeur tchèque, affirmait ainsi que
květina je klíčem k srdci ženy. Otevře ho snadněji než houslový klíč.
Les fleurs sont la clé du cœur des femmes. Elles l'ouvrent plus facilement qu'une clé de saule. Et comment ne pas mentionner cette constatation d'un autre écrivain tchèque ?
Květina mluví všemi jazyky světa.
Les fleurs parlent toutes les langues du monde. À propos d'une personne exceptionnelle, notamment sur le plan moral, on peut parfois entendre dire que c'est une fleur rare.
Vzácná květina.
Voire une herbe rare.
Vzácná bylina.
Toujours en rapport avec les qualités morales, quelqu'un peut être modeste comme une pâquerette.
Být skromný jako chudobka.
Dans la langue tchèque, le nom pâquerette,
chudobka,
est en effet dérivé de l'adjectif
chudý,
soit pauvre en français. Passons à un proverbe possédant une jolie rime.
Pro jedno kvítí, slunce nesvítí.
Soit le soleil ne brille pas que pour une seule fleur, synonyme en fait du célèbre un ou une de perdu, dix de retrouvé. Cette expression sert à consoler des amours malheureux et à essayer de faire comprendre à la personne déçue par une séparation ou un refus que l'objet de leur affection n'est pas le seul, l'unique au monde. Aussi grande soit-elle, cette déception n'est toutefois surtout pas une raison pour battre une femme, même avec une fleur.
Ženu ani květinou neuhodíš.
Et ce, même si...
To je děvče jako květ.
C'est-à-dire que la fille en question est comme une fleur, comparaison très flatteuse, ou qu'elle a des yeux comme de la chicorée,
oči jako čekanky,
des bleuets ou des centaurées,
oči jako chrpy,
des violettes,
jako fialky,
ou encore comme des myosotis,
oči jako poměnky.
Enfin, d'une jeune fille, on peut dire qu'elle ressemble à un bouton de rose.
Je to děvče jako poupátko.
Kvete růže, podívej. Kvete růže, podívej, kvete růže, ta tvá.
Voilà, c'est donc à la fois avec une jeune fille et un bouton de rose que prend fin ce tchèque du bout de la langue consacré aux fleurs.
Květiny.
Que donc demander de plus, sinon de vous retrouver, chers auditeurs, dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Mějte slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs. Magdalena Hrozinková.
Bonjour et bonsoir, soyez les bienvenus à l'écoute de ce magazine réservé à vous, les auditeurs de Radio Prague, à vos lettres, questions et commentaires sur nos émissions. Direction le Royaume-Uni pour commencer. Un bonjour de Londres où j'ai du plaisir à être à la maison, mais aussi de pouvoir écouter vos programmes chaque jour sur ondes courtes, nous a écrit Gérard Venet. J'ai été absent pendant l'hiver, raconte-t-il, en passant une partie chez mes parents dans le sud de la France et dans la péninsule indochinoise, Vietnam, Laos, Cambodge. L'émission sur les Vietnamiens de la République tchèque m'a beaucoup intéressée. Vous n'êtes pas le seul, monsieur Venet, à avoir apprécié le reportage d'Anna Kubishta sur les enfants bananes, comme on appelle souvent les jeunes Vietnamiens nés en République tchèque. Reportage diffusé le 29 avril dans le cadre du magazine La République tchèque au quotidien. Puisque l'on parle du Vietnam, je voudrais saluer Paul Jamet d'Argenteuil qui s'y trouve actuellement. Monsieur Jamet, même si vous ne reprendrez l'écoute de Radio Prague que le 18 mai, nous vous envoyons le bonjour en espérant que vous profitez pleinement de votre séjour et que vous n'oublierez pas de nous en écrire quelques mots après votre retour en France. Gérard Venet, nous revenons à votre dernière lettre datée du 3 mai. On sait bien que vous êtes un globe-trotteur, alors pas de surprise lorsque vous nous confiez. J'ai établi mon programme de circuit pour la nouvelle saison touristique et malheureusement, aucun ne me conduira en Europe centrale. Un grand bravo encore et toujours pour la grande qualité de votre travail et pour l'excellent français dans lequel vous vous exprimez. Votre français est meilleur que celui de nombreux journalistes que j'entends sur les radios françaises, écoutés ici sur les grandes ondes. Ce matin encore, quelqu'un a parlé de Dvorak au lieu de Dvořák. Je ne vous ai jamais entendu dire Macon au lieu de Masson. Fin de citation. Merci, monsieur Venet, pour ce compliment. Je trouve cependant que prononcer le « je », cette consonne infernale pour les étrangers, n'est pas évident du tout, sans évoquer d'autres pièges de la prononciation et, pire encore, de la grammaire tchèque. Alors, je n'en veux pas à mes confrères et consorts en France et ailleurs qui s'approprient les noms tchèques et je dis, quant à moi, bravo à ceux qui font des efforts pour les prononcer correctement. Enfin, vous nous proposez, monsieur Venet, de parler dans nos émissions de l'Ode Sedlitz de Prokop Dievich, qui inventa le paratonnerre avant Benjamin Franklin, et de Milada Horáková, dont la presse anglaise a parlé il y a peu, comme vous nous écrivez. Vous constatez qu'en consultant notre site internet, vous n'avez pas trouvé de renseignements sur ces personnalités et sujets. Concernant Milada Horáková, femme politique exécutée par les communistes en 1950, nous avons pourtant souvent parlé et reparlé d'elle. Récemment, ce fut à l'occasion d'un spectacle joué depuis début avril au Théâtre National de Prague et qui met en scène son procès. Quant à Prokop Dievich, vous trouverez son portrait dans la rubrique « Les Tchèques célèbres et moins célèbres » du 9 août 2007. Enfin, pour ce qui est de l'Ode Sedlitz, il est vrai que nous avons là un vide à combler. Personnellement, je ne connaissais pas ce remède et j'ai dû moi aussi surfer sur internet pour apprendre que l'ode Sedlitz naturelle que l'on trouve au village de Sedlitz en Bohême est une eau saline, froide, employée en médecine comme purgative. Ce village situé en Moravie du Nord s'appelle en tchèque Sedlac. Dans les années 1960 encore, c'était effectivement une station thermale, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Peut-être que Radio Prague vous y emmènera dans une de ses prochaines rubriques touristiques.
La radio tchèque, CET, Radio Prague, lance un concours pour ses auditeurs. Pour y participer, il vous suffit de nous écrire quels sont les sportifs et les équipes de sportifs tchèques que vous connaissez. L'auteur de la meilleure réponse remportera un séjour d'une semaine à Prague pour deux personnes. Des prix de valeur et des cadeaux souvenirs sont réservés aux autres participants. Les meilleures réponses seront publiées dans nos émissions du week-end du 28-29 juin 2008 et sur notre site web www.radio.cz. Vous pouvez envoyer vos réponses d'ici au 13 juin 2008 à l'adresse postale Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Prague 2, République tchèque. Notre adresse courriel est la suivante. cr@radio.cz. Le prix pour le lauréat du concours est gracieusement offert par le sponsor Orea Hotels, l'une des plus importantes chaînes hôtelières en République tchèque.
Vous écoutez le courrier des auditeurs de Radio Prague. À propos de ce concours 2008, vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos réponses. Parmi vous, Philippe Marsan, je ne vais évidemment pas lire sa réponse, juste son commentaire qui m'a plu. Je cite, « J'ai honoré quelques sportifs et sportives tchèques, sans oublier mon professeur de gymnastique des années 60, Monsieur Robert Paul, qui fut champion de France et d'Europe de saut en longueur à la fin des années 30. Je pense que je lui devais entendez bien cela en l'associant aux sportifs de votre pays. Fin de citation. Côté musique, vous évoquez, Monsieur Marsan, l'interview réalisée à l'occasion du 10e anniversaire de l'association franco-tchèque d'Aquitaine avec sa présidente et chanteuse d'opéra, Stella Maris Dvořáčková. Et puisque vous habitez la région, vous avez même pu assister au concert d'un chœur de jeunes filles de République tchèque, organisé à cette occasion le 24 avril à Saint-Macaire. Je cite, le concert des papillons de Schumpelk nous a permis d'écouter de superbes chants et des voix très agréables. Ce ne sont pas les papillons de Schumpelk, mais un autre chœur d'enfants tchèques réputé, Bambine de Praga, que je vous fais écouter à la fin de ce magazine, une chanson que je voudrais dédier cette fois-ci à Gérard Venet, fidèle à Radio Prague depuis 40 ans. Merci également à Félix Guibaud, Luisette et René Pigard, Maurice Mercier, Michel Harly, Hervé Briand et Jean-François Mel qui nous ont tous envoyé leur rapport d'écoute. Je vous souhaite une excellente semaine, à très bientôt sur les ondes.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.